le lot est la forme de représentation la plus achevée, la plus belle. De toutes les formes de l'art du théâtre que j'ai vues, c'est la plus grande. C'est un art de fantôme, de mort qui parle. Contraire de ceux de chez nous qui braillent, ou pour les pires d'entre eux n'aspirent qu'à se montrer eux-mêmes, les acteurs de l'eau doivent se dissoudre dans le personnage. Ne rien laisser apparaître d'eux-mêmes. Devenir en quelque sorte des corps loués pour un texte plus grand qu'eux. J'aurais aimé être cet acteur de l'eau. J'aurais aimé laisser le spectateur faire le travail à ma place. Il faut ouvrir en soi une fente pour que les textes soient délivrés de ce que nous pensons d'eux. Il faut être léger. Un acteur, qu'est-ce que c'est? Une feuille. Rien de plus, un acteur, c'est un désir de spectateur, c'est tout. Regarde autour de toi toutes ces fleurs. C'est du désir pour toi. Ça dit, reste avec nous, ça dit, ne pars pas. Ça dit, lorsque tu joues, tu nous consoles de tout ce qui nous blesse, nous humilie, nous tue, nous offense. L'art du théâtre est fait pour ça, pour réparer l'offense, pour être sauvé.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Sur un lit d'hôpital, une grande actrice se meurt. Autour d'elle, des milliers de fleurs, apportées par ceux qui l'admirent et qui l'aiment, se meurent aussi dans des vases dont il faudrait changer l'eau. À son chevet se succèdent ses proches, de vieux parents dépassés, une sœur qui a quitté le pays pour faire fortune, ses enfants, son mari alcoolique, ses amis du théâtre, un prêtre et aussi la mort, sous les traits d'un infirmier indifférent. Ça crie, ça pleure, ça boit, ça se dispute, tant la vie a du mal à faire avec la mort et surtout à faire silence. Actrice est la dernière pièce de Pascal Rambert, écrite à l'origine pour la troupe du Théâtre d'Art de Moscou où furent créées les pièces de Tchekhov, dont l'ombre tutélaire hante le spectacle. Marina Hans, incandescente, est Eugénia, cette icône de la scène agonisante. Audrey Bonnet, vibrante, et Xenia, la sœur prodigue. Leur duo restera dans les mémoires. Le théâtre, le temps qui passe, la liberté, la vanité des rêves des humains sont au cœur de cette pièce surprenante qui, créée au Bouffe du Nord à Paris en décembre, sera en tournée en France jusqu'à fin mars. Bonsoir Pascal Rambert.
Bonsoir.
Depuis vos premières pièces, le théâtre et les acteurs, et notamment les actrices, sont au cœur de ce que vous écrivez. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient chez vous presque un sujet qui vous permet d'ouvrir sur le reste du monde.
Je sens les choses comme ça, en effet. Parce que, en fait, je voyage dans le monde. Grâce au théâtre, grâce à mes pièces. Puisque je suis tout le temps en train soit de répéter dans une langue étrangère, soit de monter une de mes pièces dans une langue étrangère. On me commande des pièces que j'écris pour des acteurs étrangers. Donc forcément, je suis toujours dans un rapport de voyage. Et grâce au théâtre, grâce à l'art du théâtre, je suis sans cesse renvoyé à la vie, quoi, qui est autour de moi.
Mais actrice, ça s'appelle actrice, ça n'aurait pas pu s'appeler acteur. Il y a chez vous, et vous le dites d'ailleurs, une admiration pour le courage des actrices. Qu'est-ce que ça veut dire, le courage des actrices?
Par exemple, sur des premières, sur des répétitions, dans la vie ordinaire, j'ai toujours noté que les femmes possédaient une forme de capacité à affronter les problèmes qui m'ont toujours, apporté à l'admiration, quoi. Je sais pas, quand je vois Audrey Bonnet jouer ou Marina Hans en ce moment, je vois une figure de courage. Je vois des artistes, des artistes femmes qui portent souvent, je dois le dire, et Dieu sait si en écrivant pour Nordet ou pour Denis Podalydès ou d'autres, je m'affronte avec eux à cette notion de courage. Mais c'est vrai que j'admire ces personnes-là, quoi. Elles me renvoient peut-être à moi-même aussi. Je trouve qu'il y a chez les hommes, des fois, on a un peu tendance à contourner l'obstacle. J'ai pas l'impression de contourner l'obstacle tous les jours dans ma vie. Je travaille beaucoup et j'affronte les situations. Mais même dans cet affrontement, je trouve qu'il y a un panache qui m'a toujours rendu... elles sont assez fortes, quoi.
Pascale Rambert, actrice, était au départ écrit pour, puisque vous aimez bien écrire toujours pour des acteurs, vous les imaginez, vous les mélangez à vos personnages. Là, c'était écrit très spécifiquement pour le Théâtre d'Art de Moscou, le Théâtre de Tchekhov. On sait que depuis toujours, vous travaillez avec cette fameuse photo de Tchekhov au milieu de ses acteurs. Donc, c'était aussi une sorte de retour à vos fétiches de base. Cette pièce ne s'est pas faite, alors que dans la pièce, il y a effectivement beaucoup d'allusions au passé de la Russie, à la façon dont les spectateurs, à Moscou notamment, vivent leur relation à la scène et aux acteurs. Et la pièce ne s'est pas faite, mais on est surpris parce que c'est pas une pièce qui parle énormément de politique. Elle fait allusion à un passé de sang, mais bon, c'est passé dans l'histoire. Donc, quel est le problème? Pourquoi est-ce que cette pièce s'est pas montée à Moscou?
Lorsque j'étais à Moscou et que j'ai rencontré tous les acteurs pour écrire, j'ai rencontré à peu près 60 acteurs. Parce que la façon dont je procède, c'est que je sais pas exactement ce que je vais faire, jamais. Je veux pas le savoir, d'ailleurs. C'est pas comme ça que je procède. Par contre, je rencontre des gens, je rencontre des acteurs et je parle avec eux. Et j'ai comme ça passé des heures et des heures avec chaque acteur que je connaissais assez bien parce que je suis allé les voir jouer plusieurs fois et tout ça. Les acteurs de la troupe, ils sont une centaine environ, hein. C'est beaucoup plus gros que la Comédie Française. Et donc, je les connaissais pour les avoir vus jouer. Et aussi pour parler avec eux. Et au moment où j'ai fait les rencontres comme ça, j'écoutais leurs récits, c'est le moment où la Russie venait d'envahir la Crimée. Et je pense que, comme on le voit d'ailleurs aussi aujourd'hui, il y a une forme de rétractation qui s'est passée. Je viens de monter une de mes pièces en Chine, la moitié, mais un bon tiers a été revue par la censure. Pareil en Égypte, cette année passée. Il faut bien comprendre qu'il y a des pays où ce qui nous paraît à nous ici anodin ou pas si fort que ça peut s'avérer dans d'autres pays extrêmement difficultueux. Et je pense qu'il y a un retour en Russie en ce moment de l'idée de la Grande Russie et que souvent c'est difficile d'avoir des étrangers qui viennent vous dire deux choses sur vous-même, comme souvent c'est le cas. Là, je vais écrire pour le Théâtre National de Lisbonne, chez Thiago Rodriguez. Je ne serai pas dans le même cas de figure. Mais systématiquement, forcément, je suis confronté à des histoires du passé. Je vais travailler avec des vieux acteurs du Théâtre National. Et forcément, dès qu'on s'assoit autour d'une table, on se met à parler de ce qui vient d'arriver. L'attention vient de là. Et c'est une pièce, en effet, extrêmement russe, dans la façon, ou même dans la façon dont elle est écrite. Elle est beaucoup plus, disons, fleurie ou charnue que certaines autres de mes pièces, parce qu'elle a été écrite à l'origine pour cette façon de jouer, cette façon de dire la langue. J'ai passé beaucoup de temps, puisque j'ai monté là-bas Clôture de l'amour et que j'ai passé vraiment du temps pour travailler avec les acteurs russes. L'énergie des acteurs russes, lorsque je finissais les rencontres l'après-midi, j'étais exsangue. Je rencontrais 7, 8, 9, 10 acteurs par jour. Je passais avec eux 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand je sortais, que je rentrais chez moi, j'étais dans Moscou, je n'avais plus de force. Ce sont des gens avec une grande, grande force, une grande énergie à l'intérieur, comme ça. Donc cette pièce est aussi le marqueur de ça. Elle est aussi, dans sa langue, quelque chose où la plupart des choses que je dis, d'ailleurs sur l'art du théâtre, sont des choses que j'ai partagées avec ces acteurs-là, qui sont des préoccupations de leur manière de jouer, de la façon dont ils ont appris le métier, comment ça s'est transformé depuis Stanislavski, etc. Donc c'est une pièce, pour moi, profondément russe. Ouais.
C'est une pièce profondément russe, on s'en rend compte en l'écoutant. Sur le plateau, tout le monde est là, ça ne ressemble pas à une salle d'hôpital française. Il y a les vieux parents, il y a les enfants, tout le monde boit, tout le monde se dispute. C'est violent et au milieu, il y a la diva, Eugenia, elle est dans son lit.
C'est quoi ce reproche? C'est quoi cette façon de parler? Tu n'as pas à juger ma vie, ni toi ni personne. Je suis une femme libre. Je suis une artiste libre. Tu comprends le mot? Libre. Tu veux que je te le répète? Libre. Tu connais le prix de la liberté? Tu sais que l'on peut mourir de l'exercice de sa liberté? Oui. Bon. Il faut être responsable, Julia. J'ai fait des choix, j'ai pris des risques. Je vis trop, et là, est-ce que l'on vit trop? Jamais. Ne pleure pas. Peut-être que je vais m'en sortir, peut-être pas, mais si je perds, je veux une fin à l'image de ma vie, sans attache, sans lien. C'est ma façon de vous aimer. Aimer, ce n'est pas étouffer, Julia, ni soi, ni autrui. Alors ne me fais pas la morale. Arrête de me ramener à ce qu'il faut faire ou ne pas faire, à ce qu'une mère doit être ou pas. Nous sommes des êtres libres, rien d'autre.
Pascal Rambert, évidemment, Eugenia, c'est Marina Hans. Quand on l'écoute, on pense beaucoup à Arkadina, bien sûr. La mouette est assez présente dans cette pièce. Mais on peut aussi penser à sa manière de mourir, à la Dame aux Camélias. C'est très théâtral. Il y a des larmes, il y a du champagne, il y a un peu de tout, quoi. Et Marina Hans, pour vous, c'était évidemment Eugenia?
Pas évidemment, non. Elle l'est devenue dès le premier jour de répétition, en fait. Quand j'ai entendu son... on a fait le début, quoi. La pièce commence par un monologue où elle rêve d'une sorte de cauchemar comme ça. Et au fur et à mesure des répétitions, quand j'ai vu sa puissance de feu, sa grâce, sa joie de vivre, j'ai pensé qu'elle réinventait entièrement le texte, quoi. C'est à peu près la même chose avec Audrey Bonnet aussi. C'est vrai que ce sont des actrices qui sont capables de s'approprier entièrement les mots et qui sont capables de les amener bien plus loin que ce qu'on peut faire soi-même quand on les écrit. La clé, elle est là, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de réinvention totale à travers le talent, mais aussi à travers la personne. Je veux dire, Marina, c'est quelqu'un de simple qui, comme chacun sait, passe beaucoup de temps avec ses chevaux, est une cavalière importante. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se marie là-dedans, dans son rapport au théâtre et dans son rapport presque à la nature, à ce qui n'est pas raisonné ou résonnant ou à travers la parole. Il y a quelque chose qui fait d'elle une actrice absolument instinctive. Et j'avoue que quand je l'avais vue aussi dans un Tchekhov qui avait monté
Bondy, Ivanov.
Ivanov à la Comédie Française, j'étais complètement... j'avais vu un travail extraordinaire, vraiment. Et chaque fois qu'elle apparaît sur scène, je la trouve remarquable. Et je suis très heureux qu'on ait travaillé ensemble. On va faire beaucoup de projets ensemble maintenant. Il y a quelque chose qui commence là.
Et ce duo qu'elle fait avec Audrey Bonnet, donc sa sœur dans la pièce, deux femmes libres, deux femmes fortes, deux femmes qui successivement présentent leur mauvais et leur bon côté, parce qu'elles sont toutes les deux assez égoïstes, assez indépendantes, donc au mépris de l'amour que les autres éprouvent pour elles. Et en même temps, elles s'affrontent, elles s'aiment. Ce sont deux figures de femmes qui finalement s'opposent, mais sont assez semblables dans des choix différents. C'était important pour vous de bâtir cette pièce autour d'un duo de sœurs comme ça?
Ah oui, mais j'adore la sororité. J'ai vécu les premières années de ma vie de jeune homme avec deux filles, non pas que je vivais deux avec les deux filles en même temps, mais avec deux sœurs avec qui j'ai construit ma première compagnie quand j'avais 18 ans. Et on a passé 10 ans comme ça à vivre tous les trois dans un seul appartement, on n'avait pas beaucoup d'argent, on arrivait à Paris avec ça. Le rapport comme ça de deux sœurs pour moi a toujours été extrêmement riche. C'est pas la première fois que je fais ça dans mes pièces, hein. Plusieurs fois je l'ai fait. Simplement là, ça apparaît plus à l'intérieur d'actrice. Et si je le fais, j'ai très envie de faire en fait d'écrire quelque chose avec pour Marina Hans et pour Audrey, justement sur deux sœurs qui s'affrontent. Je trouve que il y a quelque chose d'impossible comme dans le rapport mère-fille. Il y a quelque chose d'impossible aussi dans le rapport sœur-sœur. J'ai toujours vécu avec des filles qui avaient des sœurs. Et j'ai toujours observé ça. Depuis 40 ans, j'observe le rapport sœur-sœur. C'est très riche, je veux dire, pour écrire, c'est une chose merveilleuse. Parce que, comme vous le dites, elles se ressemblent profondément et en même temps, tout semblerait comme ça les opposer. Mais dans cette sorte de détestation absolue qu'elles peuvent apparemment avoir l'une pour l'autre, à la fin, on voit le cœur qui s'ouvre, quoi. On entend toujours ça, finalement. C'est quand même ma sœur. Et malgré peut-être une vie entière où elles auraient pu se détester, se disputer, etc., vivre à des kilomètres l'une de l'autre, à la fin, c'est quand même ma sœur. Et je trouve que ce rapport-là d'être humain au moment de la mort est forcément quelque chose qui est riche pour quelqu'un qui écrit.
Alors, Eugenia Marina Hans, elle a fait le choix d'être actrice à Moscou. Ses enfants en ont pâti. Sa sœur Xenia s'est enfuie au Monténégro pour faire fortune, pour gagner de l'argent, pour s'éloigner aussi sûrement de sa famille. On l'écoute.
Je récupère Emilia en pleurs parce que tu lui expliques qu'elle doit être un être libre et tu me lances à la figure des phrases toutes faites où tu me reproches de l'avoir été. Oui, j'ai eu le courage de l'être libre. Ce mot... T'as toujours à la bouche. Oui, j'ai choisi la liberté. Quand vous étiez tous ici comme des fourmis affolées devant la liberté qui s'offrait à vous, elle vous faisait peur. Moi, je l'ai saisie. Et alors? Je juge, moi, ta pénétration réussie et rémunérante dans le monde de la profération criarde des textes du passé.
Un théâtre bien chauffé l'hiver, climatisé l'été, avec un gros salaire fixe. Et des salles remplies de visages conquis, de bras chargés de fleurs, où on dit salut. Il y a un risque dans cette vie. Ne sors pas vos histoires complaisantes, petit acteur. Ou rentrer sur scène, c'est toujours mourir. Non, moi j'ai risqué la mienne. Oui, j'avais envie de soleil et d'argent. Ouais, le mal. C'est pas toi qui as le courage de fuir en plein hiver comme je l'ai fait. Toi, tu avais le courage de jouer Ophélie. C'est pas toi qui as eu le courage de changer des draps, faire des lits, nettoyer des chambres, des salles de bain, des chambres, changer des draps, faire des lits, nettoyer des chambres, pendant des années nettoyer. Toi, tu avais le courage de jouer Juliette. C'est pas toi qui as eu le courage de résister aux humiliations quotidiennes de ce que tu appelles à juste titre le pire du management contemporain. Toi, tu avais le courage de jouer Nina. Et les gens t'applaudissaient pour ça. Moi, les gens ne me regardaient pas, ne me voyaient pas. J'étais une employée, une esclave. Dans la masse dégoûtante du tourisme mondial et des plages de rêve. Pourtant, j'ai fait preuve de courage.
Pascal Rambert, c'est une pièce alors chorale évidemment, mais dans laquelle chacun de vos personnages a un moment de monologue pour s'exprimer. Et quand on vous connaît à travers vos pièces, on se dit que vous avez été assez heureux de mettre un peu de vous, de ce que vous pensez, de vos idées, de vos opinions, de votre regard, dans chacun des personnages, y compris les enfants, quitte à choisir d'illustrer les contradictions. On a tous, à un moment, envie d'approuver ce qu'ils sont en train de dire, sans se rendre compte que c'est l'exacte opposition de ce qu'on a entendu dans le personnage précédent. C'est un plaisir que vous vous offrez. Vous avez le droit, vous êtes l'auteur.
Oui, mais très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est... comment expliquer ça ? J'écris du théâtre, d'accord ? Et je parle avec, souvent, des acteurs avant de commencer à écrire. Donc, contrairement à ce que souvent je peux entendre depuis des années, c'est pas toujours moi qui parle. C'est pas forcément mes idées. Je pense pas forcément ça. Je fais parler des gens, en fait. Mon travail, c'est de faire parler des gens. Et de faire parler des gens qui souvent sont, très souvent d'ailleurs, pas d'accord avec les autres. Ça, c'est un peu l'essence de l'écriture dramatique, mais aussi assez peu souvent d'accord avec eux-mêmes, qui changent d'opinion entre le début de la pièce et la fin de la pièce, dont on voit, nous, en tant que spectateurs, une évolution aller de vers quelqu'un qui semble être extrêmement, comme le personnage d'Audrey, par exemple, dans la pièce, pas très sympathique, voilà, on n'a pas beaucoup d'empathie, et on se rencontre à la fin le trajet d'un être humain, c'est-à-dire, ce que j'aime bien montrer au théâtre, c'est comment nous nous trompons, en fait, comment on se trompe quand on regarde la vie. Parce qu'on se trompe souvent en regardant la vie, c'est-à-dire que on colle très vite des idées, des jugements, un a priori sur quelque chose, sur une personne, sur le premier coup d'œil, la première rencontre, etc. Et évidemment, les choses sont plus complexes que ça. Et je trouve que le théâtre permet chaque fois de rappeler à ceux qui sont souvent pleins de certitudes et qui doutent peu qu'il y a du doute dans le réel. Il y a du doute dans la façon de regarder les choses, comment une situation évolue. Et donc, je suis parfois dans ce que j'écris, mais de façon majoritaire, en fait, je fais parler des gens. Si on s'attache vraiment à regarder le texte, on voit bien que l'écriture varie souvent en fonction de celui qui parle, parce que j'entends mille façons de parler autour de moi. Et même dans la distribution aussi, dans une distribution qui va évidemment avec Marina Hans et Audrey Bonnet, qui sont extrêmement connus, mais avec plein de gens qui ne sont pas connus, des gens, des acteurs avec qui je travaille en Chine, en Finlande ou ailleurs. Parce que c'est aussi ce rapport-là au réel qui m'intéresse, de pas forcément avoir une distribution uniforme. Je peux le faire, hein, j'en fais plein d'autres comme ça avec des acteurs français et tout. Mais là, pour celle-ci, ça me semblait important d'avoir ces acteurs et ces personnes aussi. Il y a des personnes âgées, âgées qui ont 80 ans, enfin voilà, qui sont pas forcément des acteurs. Mais je trouve que l'émotion que me procurent ces personnes-là sur un plateau est aussi forte que des acteurs rompus à l'art du théâtre, etc. Donc cette chose-là qui peut paraître des fois déstabilisante par son apparent manque de cohésion, pour moi, est une grande vertu.
Mais d'ailleurs, il y a aussi sur la scène, alors moi je l'ai vu au Théâtre des Bouffes du Nord, maintenant la pièce va tourner en France jusqu'à la fin du mois de mars. Vous avez choisi, Pascal Rambert, des acteurs qui ne parlaient pas du tout français, et donc vous leur avez fait apprendre phonétiquement leur texte. Et c'est vrai que certains critiques et certains spectateurs disent « mais on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Est-ce que ça, vous avez totalement assumé le risque d'avoir une partie du texte qui n'arrive pas aux oreilles des spectateurs ?
Oui, parce que ce qu'ils disent, c'est... Et c'est pour ça que je les ai choisis, je ne les aurais pas choisis peut-être sur une autre pièce. Mais c'est l'énergie, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, on a déjà fait des pièces de danse ensemble, où ils n'avaient pas à parler, là, pour le coup. Mais, je veux dire, l'énergie qu'ils insufflent, l'accent, par exemple. Je me souviens, quand j'étais chez jeune élève, chez Antoine Vitesse nous parlait tout le temps des accents. Il adorait les accents. Donc, il a travaillé plein de fois avec des acteurs qui venaient à l'étranger, etc. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui se plaignent à la Comédie Française, qu'on comprend parfois difficilement certains acteurs. Mais l'accent, le fait que tout ne passe pas par l'oralité, c'est aussi l'art du théâtre. Je veux dire que les... On se posait la question l'autre jour avec Arthur Nozissel, quand il venait voir la pièce, il me disait... Qui aurait pu jouer ces personnages-là, en fait, comme acteurs français? Il y en a, évidemment. Mais c'est vrai que ça vient pas tout de suite et ceux que j'ai choisis sont des gens extrêmement libres. Ça pourrait être des sortes de chaînes navarres finlandais. Donc, on est avec des gens qui ne passent pas uniquement par la parole, mais qui passent aussi essentiellement
par le corps.
Par le corps et une forme de folie que je maîtrise assez peu, mais je les ai choisis pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur du cadre qu'on a bâti ensemble, mais tous les soirs, je leur demande d'être inventifs et de pas refaire ce qu'ils ont fait la veille. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, moi, me plaît beaucoup. Je veux dire qu'il est... faut jouer le jeu, quoi. Il faut adhérer à ça.
On sait, parce que vous le dites souvent, Pascal Rambert, que pour vous, le modèle absolu, j'allais dire, de théâtre, c'est le no. D'ailleurs, on l'entendait au début de cette émission dans la voix d'un de vos acteurs qui interprète Sergueï, qui dit « Le no, ce qui est formidable, c'est que les acteurs se dissolvent, en fait, dans le personnage. Ils deviennent comme des sortes de fantômes. » Et là, on peut pas dire que cette pièce, à part dans la déclaration de Sergueï, elle ne rend pas hommage au no. C'est une pièce où tout le monde crie, où
oui.
Tout le monde est présent, où justement, parfois, le corps des acteurs, donc leur personnalité, dépasse même leur personnage.
Bien sûr. Voilà, là, c'est en l'occurrence... J'étais à Tokyo il y a encore 10 jours. Je prépare l'adaptation en japonais d'une pièce que je viens de faire à Taipei. C'est un pays que je connais énormément. J'ai vu plus de 80 no dans ma vie. C'est vraiment une... Je vais au Japon depuis plus de presque 20 ans. Donc ça fait partie aussi de ma culture. J'ai fait des pièces qui étaient beaucoup plus silencieuses et calmes qu'actrices. Mais je pense qu'actrice, c'est l'empreinte définitive qui est restée en moi de tous mes séjours à Moscou, bien sûr. Et aussi dans d'autres pays de l'ex-empire soviétique. Par exemple, la dernière pièce que je viens de faire justement en Chine, à Taipei, est une pièce beaucoup plus calme, beaucoup plus silencieuse. Beaucoup moins poétique d'ailleurs, elle l'est par d'autres côtés. Mais voilà, c'est vraiment des choses où d'une certaine manière je me colle à une énergie que j'essaie de retranscrire. Et l'art du no est un tel îlot dans l'art du théâtre qu'il faut le laisser à ceux qui le pratiquent. Quand je suis arrivé au Japon il y a une vingtaine d'années, j'avais envoyé une carte postale à Claude Régis en lui disant « Je viens de voir quelque chose hier soir, je suis allé voir pour la première fois au théâtre no. Je pense qu'il faut que tu viennes au Japon pour voir ça. » Parce que
c'est vrai qualité... qu'on peut penser au théâtre de Claude Régis.
Bah oui, la qualité des silences est absolument inouïe. Et peut-être que dans l'art occidental de l'art du théâtre, les silences les plus puissants que j'ai pu voir étaient chez Claude Régis. Parfois aussi chez Peter Brook. Notamment à la fin d'Hamlet, de son Hamlet. Un silence extraordinaire. Un silence dont quand on peut pas oublier. Je veux dire, là, c'est l'art du silence absolu. Et j'avais dit à Régis, il faut vraiment que tu viennes là. Et il est allé quelques années plus tard, évidemment. Il a fait des spectacles là-bas. Et c'est très beau parce qu'en fait, c'est une histoire qui se continue. Quand je demandais à Régis d'où il tenait d'une certaine manière le théâtre qu'il faisait, il m'expliquait que, en fait, il avait vu le regard du sourd. Et quand on demande à Bob Wilson d'où il tient ce qu'il fait, il dit, je le tiens du théâtre no. Donc il y a une sorte d'histoire comme ça qui se boucle de tour de l'art du théâtre et de la passion que j'ai pour cet art-là, qui me fait parfois faire des pièces, sautillantes et puis d'autres plus calmes. Là, je viens d'écrire une pièce qui s'appelle Isabelle, que je viens d'écrire pour Isabelle Huppert, qu'on va faire cette saison. Et la pièce est beaucoup plus calme, oui.
Voilà. Il faudra pouvoir faire un silence comme cela plus souvent au théâtre. Au théâtre, les acteurs ont peur des silences. Tout comme les spectateurs. Les spectateurs commencent à bouger. Tous. Or, il n'y a rien de plus beau. C'est peut-être le visage de la mort. Et c'est pour ça que ça nous effraie tant quand nous l'expérimentons à plusieurs. dans le noir des théâtres.
L'art de l'acteur est fait pour nous le rappeler chaque soir. Nous sommes des êtres inachevés, partiels, opaques, détruits. C'est cela que l'acteur doit montrer.
Mais pourquoi tu diriges les acteurs comme ça?
Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de technique. Il faut regarder la vie et essayer de ne pas s'agiter. Les jeunes acteurs, mais aussi les jeunes metteurs en scène que j'ai à l'école du théâtre, s'agitent beaucoup. Je les mets sur une chaise au centre du plateau et je leur dis « Écoute ». Au bout de 2 minutes, ils se mettent à bouger dans tous les sens. Nous allons vers une grande catastrophe. Nous ne serons plus capables de nous concentrer. Dans 20 ans, personne n'écoutera plus personne. Nous aurons perdu l'écoute et notre art rétrécira.
Pascal Rambert, on entend Sergueï parler de cet art du théâtre ou de ce péril qui nous menace, l'impossibilité de se concentrer pour écouter un texte, par exemple. Là, il y a du Pascal Rambert quand même dans certaines de ses phrases.
Non, ça c'est vrai, vraiment. Je veux dire que, mais je me le dis aussi à moi-même parce que le fait que on soit tous avec nos smartphones, etc. Je trouve qu'il y a il y a un effritement de l'attention portée à chaque chose. C'est surprenant de voir quand je travaille en Chine, quand je vais au théâtre, les ouvreurs ont des petites lampes laser pour pointer du deuxième balcon au parterre quelqu'un qui ouvre son téléphone, etc. Et comme les gens passent leur temps à ouvrir leur téléphone et à checker des choses sur leur téléphone, au lieu que ça crée de la concentration, on voit 3, 4, 5, 10 faisceaux laser qui passe devant la scène, etc. Donc, c'est vrai qu'on est dans un rapport où c'est difficile de... On le sent, moi, je le sens dans les salles. Hein. Je veux dire que... On parlait tout à l'heure de Claude Régis. Claude a 92, 93 ans. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène, des écrivains qui l'auront engendré, si je puis dire, d'autres artistes? C'est quelque chose qu'on va garder en nous. Produire ce théâtre-là comme ça, faire quelque chose comme ça dans 20 ans, est-ce qu'on sera encore capable d'accepter ça? Je trouve que c'est une vraie question. Hein. Je veux dire, je le vois aussi quand je vais sur, je sais pas, la Comédie Française, que je peux voir aussi des textes classiques. On sent devant, même si c'est extrêmement bien joué, etc. Et Dieu sait si j'aime les acteurs de la Comédie Française. Je les adore même. Et j'ai été tellement heureux quand j'ai fait Une Vie il y a 6 mois. Sans même que dans cet endroit-là, on sent que voilà, oui, je me pose la question de comment on arrive à vraiment écouter quelque chose. Je me souviens des premières pièces de Peter Hank, par exemple, Par les villages, qui a monté sublimement Stanislas Nordet il y a quelques années dans la cour d'honneur. Des textes qui partent avec des monologues qui durent pour certains, comme le dernier, par exemple, dans Par les villages, qui part sur, je crois, peut-être 15, 20, 30 minutes. Comment on tient devant ça? Et pourtant, il y a encore une poignée de gens qui aiment ça, et qui aimeront toujours ça. On aimera. Moi, je fais partie de ceux qui aiment ça. J'aime ce temps-là. Alors, c'est ça que j'ai dit, simplement.
Et en même temps, c'est vrai qu'on vous qualifie assez facilement, Pascal Rambert, d'hyperactif, parce que actrice, c'est le 10e spectacle que vous avez monté cette année. 8 à l'étranger, 2 en France. Mmh. Comment vous faites? Alors, vous dites, on a besoin de se concentrer, d'écouter, de se poser, etc. Et en même temps, vous-même, dans votre travail d'écrivain de théâtre et de metteur en scène, vous courez partout. Comment c'est compatible aussi, tout ça?
On parlait hors antenne du décès de...
De Paul Tchaïkovski, Laurence.
Et il y a ce livre très beau qu'il a publié, qui s'appelle « La vie est courte et le désir sans fin ». Et je regardais ça, justement, passer sur les réseaux sociaux. Et je suis ému, là, parce que je pense que c'est ça, en fait. La réponse est ça. C'est que ça va très vite, que j'ai plein de gens à voir, plein de gens à écouter, plein de gens à retranscrire, que j'ai beaucoup, beaucoup de propositions. J'ai entre 3-4 propositions par semaine. Ce qui fait à peu près 10 propositions par mois, une centaine par an, et je fais 10 pièces par an, c'est pas beaucoup par rapport à ce
mais
que je reçois.
En fait, le fond de ma question, c'était pas tant sur votre emploi du temps, c'était, je me rends compte à quel point, déjà là, actrice, on sent bien que c'est une pièce vraiment inspirée par les Russes. Vous parlez de monter des pièces au Japon, c'est forcément inspiré aussi par cette manière de parler ou d'être au théâtre au Japon. Pareil dans tous les autres pays du monde où vous montez, c'est-à-dire qu'en fait vous passez d'un univers culturel à un autre.
C'est
quelque chose qui a à voir avec votre appétit de la vie. Vous arrivez à passer... parce que ce sont des écritures différentes, ce sont des manières d'aborder les acteurs différentes et vous arrivez à faire tout ça, vous n'arrivez pas au bout du compte à faire toujours la même pièce pour tout le monde. Donc c'est ça qui est surprenant surtout.
Oui, mais ça fait très longtemps que je fais ça en fait. Je fais ça depuis quasiment 30 ans. Sauf que ça se voyait pas de la même manière ou en tout cas on le lisait pas de la même manière, mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours écrit, j'ai travaillé pendant des années aux États-Unis. J'ai travaillé pendant des années au Moyen-Orient, bien avant la guerre de Syrie, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Damas, à Alexandrie, au Caire, en Israël. Le bassin méditerranéen a été vraiment une grande source pour moi. Et puis après, ça s'est élargi au reste du monde. Et tous les projets que j'ai maintenant sont des projets qui concernent l'Amérique du Sud. On rentre de tournée de Mexico, on y retourne bientôt. J'ai beaucoup de projets aussi à Buenos Aires, en Espagne, en Italie. Donc toute l'Europe... Moi, je travaille avec des producteurs. Un producteur me contacte et en fonction de la sympathie, quoi, de l'empathie avec le producteur, je dis oui ou pas. Et à partir de là, je rentre dans un monde qui est le monde de l'autre. Moi, mon truc, c'est de m'intéresser aux autres, quoi. Je veux dire, donner une forme littéraire, plastique, visuelle, sonore, corporelle, à l'altérité, quoi. Donc, j'ai toujours fait ça. Je le fais avec, des fois, un bonheur, des fois je me plante, et puis voilà, c'est la vie. Mais ça procède de cet appétit-là. C'est pas du tout quelque chose qui est centré sur ma personne. Et oui, souvent on pense que je dis ceci ou ce personnage-là reflète ce que je pense. Pas du tout, quoi. Je fais parler des gens, quoi. J'écoute des gens, je les fais parler. Très franchement, tout ce qui se dit sur actrice, c'est pas du copier-coller, mais c'est des discussions que j'ai eues avec les acteurs et dont ça me semblait intéressant. si j'écrivais une pièce qui s'appelle Actrice pour les acteurs du français, que je passe un mois, deux mois, un an et demi à les rencontrer chacun, à aller les voir comme je l'ai fait pour le théâtre d'art, ça donnerait une pièce totalement différente. Ça donnerait sans doute ce que l'on appelle, quand mon travail est montré à l'étranger, une pièce très française. Il paraît que je suis très français. Alors moi, j'ai pas du tout l'impression d'être français, mais à l'étranger, je suis très français.
Alors, si je vous comprends bien, Pascal Rambert, ça veut dire qu'il n'y a pas des pièces de Pascal Rambert qui circulent dans le monde, il y a à chaque fois un Pascal Rambert différent dans chaque partie du monde qui écrit une pièce différente, adaptée à la culture, aux acteurs et aux spectateurs de ce pays-là.
L'avant-dernière que je viens de faire là, au mois d'août, c'était à Taipei, donc. J'ai lu toutes les biographies de Chiang Kai-shek qui peuvent exister, toutes les biographies de Mao. Parce que quand j'étais là-bas, dès qu'on se retrouve au restaurant avec les acteurs, bon, on parle de choses et d'autres, très vite arrivent les questions de la famille, des parents, des grands-parents, etc. Et on se rend compte que la tragédie est là, tout de suite là. Pareil, quand je travaille dans les Balkans, on s'assoit et très vite, la tragédie est là. C'est pas comme ici en Europe où on est quand même dans un rapport où c'était mes grands-parents par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y a des pays dans le monde où la tragédie est là. Elle date de 2 ans, de 5 ans, de 20 ans, de 40 ans. Donc très vite, on est confronté à une géopolitique, si j'ose dire presque, du rapport humain immédiat. Tout de suite, on est là-dedans. Donc tout de suite, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle époque, c'est quand, pourquoi. Et les choses se reconstruisent. Et elles se reconstruisent de façon magnifique dans les heures que je passe avec les acteurs, en fait, à les faire parler. J'adore les faire parler. Et une fois que je les ai fait parler, que j'ai passé une semaine, 10 jours, 3 semaines avec eux, après je rentre à Paris et 2 ans plus tard, la pièce est prête et je commence à la monter avec eux. Et entre-temps, ils retrouvent souvent ce qu'ils ont dit ou de façon modifiée, ce qu'ils peuvent dire. Mais c'est toujours à partir de ce que j'ai entendu. Il n'y a pas de chose inventée. Après, je leur donne une forme, mais il n'y a pas de chose inventée. Tout est vérifiable et vrai. C'est pas des choses en l'air. Tout ce qui est dit, par exemple, dans l'actrice, sont des choses que des acteurs m'ont dit. Les deux personnages des sœurs sont vraiment deux actrices. C'est quasiment leur biographie que l'on voit sur la scène.
En tout cas, c'est une pièce qu'il faut voir, qui s'est terminée là il y a quelques jours à Paris et qui va être maintenant en tournée à Tarbes, à Strasbourg, à Rennes, à Lyon, bref, partout dans Paris. Et il me reste à vous remercier, Pascal Rambert, mais je pense que cette année, on va encore vous revoir dans pas très longtemps. Architecture, une nouvelle pièce, Emmanuel Béart, Marie-Sophie Ferdan, Denis Podalydès, les habitués.
Marina Hante, ouais. André Bonnet, Laurent Poitrenaud, Jacques Weber.
Ça sera quand à peu près?
Denis Podalydès, Arthur Nosiciel, j'espère que j'en oublie pas. Ça c'est pour 2019. Ça.
2019.
C'est la grosse que je suis en train d'écrire. Ouais. Pour 2019. Et puis, c'est un an d'écriture entière, quoi. Mais voilà, il y a des pièces qui sont plus longues à écrire que d'autres, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et puis, parce que j'aime bien passer de pièces, disons, plus, plus étrangères ou étranges à des choses qui sont avec mes camarades français, parce que le français, c'est ma langue, et c'est la langue dans laquelle j'écris toujours, et c'est mon attache.
Merci infiniment, Pascal Rambert, d'être venu nous voir.
Merci.
Et à bientôt donc pour d'autres aventures. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Cartier à Paris, pour une sublime exposition du photographe malien Malik Sidibé. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.